Je regarde bien parce que c'est moi qui ai été absent, donc je regarde tout le monde, voir dans quel état vous êtes. Hein. Vous savez, le médecin, quand vous rentrez, il regarde votre tête et il voit dans quel état vous êtes. Bon, ne me regardez pas trop, mais voilà. C'est un privilège que d'être là et de pouvoir ouvrir la parole de Dieu ensemble. Il y a 15 jours, quand j'étais là, on était dans Éphésiens chapitre 2. Et donc, nous allons continuer dans Éphésiens chapitre 2. Le passage a été lu tout à l'heure. Donc, dans ce passage qui a été lu, les 10 premiers versets du chapitre 2 d'Éphésiens, les 3 premiers versets nous décrivent notre état, l'état dans lequel Dieu nous a trouvés. Hein, et il est bon pour nous de savoir exactement comment il nous voyait. Peut-être qu'on ne se voyait pas si mal que ça, mais la réalité est là, hein, d'où son initiative à notre égard. Il a tant fait pour nous sauver. On dit, mais je ne valais pas tant que ça, il ne fallait pas faire tant que ça, mais il a fait le minimum, et c'était le maximum. Et donc, et dans les versets 4 à 10, alors nous avons ce que Dieu prépare pour nous. Je vais quand même relire les versets 4 à 10 pour qu'ils soient sur l'enregistrement, pour ceux qui écoutent l'enregistrement. Donc, les versets 4 à 10, ça commence par « mais ». Mais, c'est-à-dire il y a l'homme, et puis après, il y a quelque chose qui se passe. Mais Dieu, hein, et ça change tout. Quand « mais Dieu » arrive, alors tout change. Hein. Il dit « mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, afin que Dieu a préparé d'avance, afin que nous les pratiquions. Donc nous allons arriver jusqu'au verset 10, mais finalement je vais laisser jusqu'à la semaine prochaine le verset 10. Mais d'abord, voyons la grâce de Dieu. Vous savez, il est bon pour nous de voir Dieu tel qu'il est réellement. Et heureusement pour nous que ce n'est pas l'homme qui a inventé Dieu. Parce que si c'était l'homme qui a inventé Dieu, d'abord, ça ne serait pas du tout comme ça l'est dans la Bible. Et deuxièmement, eh bien, il ressemblerait à son créateur, donc nous. Ben, on ne serait pas aidé. C'est justement, on veut quelqu'un d'ailleurs pour intervenir dans nos vies. Donc, c'est ça le problème de beaucoup de religions, c'est que ça ressemble à la culture duquel c'est issu. Et parce que c'est des inventions de l'homme. Même certains aspects du christianisme sont affectés par le milieu. Et donc, nous devons faire très attention de rester fidèles à ce que la Bible dit, rien de plus, rien de moins. Sola Biblia, hein, c'est seulement la Bible. Et donc, heureusement que Dieu n'a pas été inventé par nous, mais qu'il, lui, de son côté, eh bien, a vu notre besoin, est intervenu. Je vais commencer par des attributs, les attributs de Dieu. Je ne vais pas vous demander de faire la liste. Certainement que la liste serait infinie, parce que Dieu est infini. Donc certains attributs nous ont été révélés dans l'Écriture. L'un des attributs de Dieu, c'est le fait qu'il soit infini, donc vous pouvez imaginer. Et donc ce qui nous a été révélé, ce sont les attributs qui nous concernent. Et il y a certains attributs, des attributs de Dieu qui sont intrinsèques à lui, ils sont là, qu'il ait affaire avec nous ou qu'il n'ait pas fait affaire avec nous, il est. Et il y a d'autres attributs ce sont des attributs dans sa relation avec nous et dans ses interventions chez nous. Quand on dit qu'il est puissant, il est puissant, mais bon, c'est pas pour lui qu'il a besoin de cette puissance. La puissance, c'est pour agir ailleurs. Quand il dit qu'il est omniprésent, il n'a pas besoin d'être omniprésent pour lui-même, il est. Mais omniprésent pour nous, c'est nous qui en bénéficions. Donc il y a certains attributs qui nous affectent, nous, qui sont pour nous. Mais il y a des attributs qui sont intrinsèques à lui. Par exemple, Dieu est saint. La Bible nous dit que Dieu est saint. Lévitique chapitre 11, versets 44-45, ou 1 Pierre 1-16, nous dit que Dieu est saint. Dieu est saint, que nous ayons... Il était saint avant de nous créer, et il est toujours saint, et il ne peut pas être autrement. Hein. Sa sainteté, et donc il ne peut jamais faire quoi que ce soit qui contredise, qui aille à l'encontre de sa sainteté. C'est un attribut... Qui lui est propre. Quand je dis aussi que Dieu est vérité, eh bien, Dieu est vérité. Il est toujours vérité, il ne peut pas être autrement, il n'y a pas de mensonge chez lui. Il a dit le père du mensonge, c'est le diable, mais lui, il est la source de la vérité, il n'est que vérité, il ne peut dire que la vérité, et il ne peut tromper, il ne sait pas tromper. Hein? Et donc, et il était vérité même avant que l'homme soit créé. Il est vérité. Et un troisième, ce serait le fait que Dieu soit amour. Il est amour. C'est pas qu'il aime, c'est pas qu'il est aimant, il est amour. C'est-à-dire que c'est là. Même s'il n'y a personne à aimer, il est amour. Et c'est très important pour nous de comprendre cela. L'attribut de vérité, eh bien, devient... Pour nous, fidélité, quand c'est orienté vers nous, ça devient fidélité, parce que Dieu dit vrai, il fait une promesse, elle est vraie, et donc pour nous, ça s'exprime par de la fidélité. Hein, donc quand on dit que la fidélité de Dieu est liée au fait qu'il soit vérité. Lorsque je parle de la sainteté de Dieu, Dieu est saint, pur, il ne tolère aucun défaut, aucune imperfection, aucune déviation de sa nature et de sa volonté. Et donc, quand ça s'exprime vers nous, ça devient de la justice. Dieu, d'être avec nous, il est juste, parce qu'il est saint. Et donc, il ne peut pas tolérer le tort, le mal, le péché. Il est saint. Hein? Et puis alors, l'amour de Dieu, on dit, voilà, l'amour de Dieu, quand ça s'exprime vers nous, eh bien, c'est de la miséricorde et c'est de la grâce. Vous serez peut-être surpris que, si je vous dis que l'amour de Dieu ne peut pas sauver l'homme. Dieu ne nous sauve pas parce qu'il aime. Vous pouvez aimer vos enfants tant que vous voulez, mais ça ne veut pas dire que tout ce qu'ils font, ça passe. Et que vous tolérez tout, vous laissez tout passer. Vous ne cessez de l'aimer, même si votre enfant il commet une faute grave, vous l'aimez toujours. Mais il y a des moments où ça doit intervenir et vous devez agir et intervenir pour son bien, parce que vous l'aimez. Et donc, Dieu aussi, Dieu nous aime et la Bible affirme son amour. Mais ce n'est pas parce qu'il nous aime que, et comme certains disent, oh, mais Dieu est amour, il ne va jamais permettre que quelqu'un aille en enfer. Mais il ne voudrait qu'aucun aille en enfer. Mais l'amour ne suffit pas pour les empêcher, parce qu'il est saint aussi. Et il est saint, et donc il doit être juste, il doit condamner le péché. Et donc il ne peut pas violer sa personne, son attribut. Hein? Et c'est pareil que en tant que parent qui aime tous ses enfants, mais des fois il faut exercer la justice entre les enfants. Hein? Ça veut dire qu'il y en a un qui est condamné, il y en a un qui est excusé, mais on les aime tous. C'est pas parce qu'on l'a condamné qu'on ne l'aime plus, c'est parce qu'on l'aime justement, et c'est pour son bien. Et donc, il faut pas voir la justice de Dieu comme quelque chose qui est une gêne pour nous. C'est une réalité. Il faut en tenir compte. Et c'est parce que Dieu est juste que Christ est mort sur la croix. Et c'est parce que Dieu est amour que sa grâce est là pour nous pardonner. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Son amour l'a poussé à offrir son Fils comme sacrifice. Mais après, pour nous pardonner, eh bien, il fallait qu'il exerce la grâce. Vous savez, l'expression de l'amour, c'est la grâce, la miséricorde, la persévérance, la patience. Quand vous aimez quelqu'un, vous êtes plus patient que si vous ne l'aimez pas. Quand vous aimez quelqu'un, vous allez être persévérant avec. Ce sont des expressions de l'amour. Et c'est ce que nous recevons et ce dont nous bénéficions de Dieu. Donc, l'amour de Dieu, Dieu a tant aimé le monde, il n'a pas pu dire « Je vous ai tant aimé que vous êtes tous pardonnés ». Il ne pouvait pas le dire parce qu'il est saint. Mais il a dit « Je vous ai tous aimés et donc, et comme je sais que vous êtes pécheurs, donc j'ai dû envoyer Jésus-Christ qui est mort sur la croix, qui a pris sur lui vos fautes, et maintenant je peux vous faire grâce ». Parce que quelqu'un a payé. Et donc, je peux exercer la miséricorde. Et donc, quand il exerce la miséricorde, parce que la grâce ne peut être étendue que vers quelqu'un qui est coupable, hein, on ne peut pas gracier quelqu'un qui n'est pas coupable, un innocent, on lui fait pas grâce. On n'excuse pas un innocent, on n'excuse que coupable. Et donc, il a dit, donc, en faisant grâce, en nous offrant le salut par grâce, eh bien, il dit, je tiens compte du fait. Donc, je respecte ma sainteté, je vous ai condamné, et ensuite, j'ai offert par amour, je vais préparer un moyen, un sacrifice qui a couvert vos péchés, et maintenant, je peux vous pardonner. C'est ça la logique et le raisonnement de Dieu. C'est à nous de comprendre sa personne, de comprendre, et puis alors là, on comprend que son plan tient debout, hein, parce que ça satisfait ses besoins, sa personne, ses réalités, et nous, on bénéficie aussi dans notre situation. Donc, c'est pour ça qu'il nous dit là, ici, par deux fois, hein, il dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés. En fait, regardons au verset 7, il nous dit « Afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. » Et au verset 4, il dit « Qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, qui est riche en miséricorde parce qu'il nous aime. » La miséricorde, c'est l'expression de cet amour. Et il a pu faire miséricorde parce que Christ est mort. Hein? Donc il n'y a pas 36 manières de contourner la chose. C'est Dieu doit se respecter et Dieu doit nous aider. Et il a trouvé un moyen. Et en fait, la croix de Golgotha, c'est l'endroit où la justice et la grâce de Dieu se rencontrent. Hein? Donc il nous dit, maintenant au verset 5, il dit « Nous qui étions morts par nos offenses, et nous avons vu ça la dernière fois, donc c'est comme ça que le verset 1 commence, hein, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, morts dans le sens que séparés de Dieu, plus de communion avec Dieu, mais ça n'empêchait pas que Dieu nous parle dans sa grâce, il a permis que quand même on puisse entendre sa voix, répondre et demander pardon et se repentir, et entendre son appel. Et donc Dieu dans sa grâce a laissé cette capacité chez l'homme, mais nous étions morts par nos péchés et nos offenses, c'est-à-dire que naturellement on allait vers le péché et on ne pouvait pas plaire à Dieu, hein, n'importe comment. Mais il dit au verset 5, nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendus à la vie en Christ, avec Christ. Il nous a rendus, nous étions morts et nous a rendu à la vie. Quand il parle d'une mort et la vie, donc c'est la vie qui équivaut à, c'est le contraire de cette mort. Il y avait une mort particulière, cette mort c'est cette rupture de communion avec Dieu. C'est le moment où on se sentait coupable devant Dieu. Hein. Vous rappelez, on avait vu Adam et Ève dans le jardin quand ils ont péché. Et bien tout d'un coup, ils ont voulu se couvrir, ils ont voulu fuir. Tout d'un coup, ils étaient en train de mettre la faute l'un sur l'autre, alors qu'ils s'aimaient il y a 10 minutes. Hein. Et là, ben, quand il dit il nous a rendu à la vie, ça veut dire que tout cela a été réparé. Hein, la vie, ça veut dire que maintenant, je peux être en communion avec Dieu, je le cherche. Je ne vis plus sous cette culpabilité, tout est pardonné, c'est ça la vie nouvelle. Et dit, nous avons la vie avec Christ. Avec Christ. C'est la différence, c'était avant, on était sans Christ et tout seul dans notre état. Hein. Et maintenant, grâce à la croix de Christ, il nous est possible de recevoir la vie nouvelle. Mais la vie nouvelle, on ne la reçoit pas comme ça, tiens, eh ben écoute, tiens, je te donne la vie éternelle. Alors fais-en ce que tu veux. Non, non. Il dit, la vie nouvelle, elle vient avec Jésus-Christ. On ne reçoit pas la vie éternelle sans Jésus-Christ. On est lié à lui. Alors c'est pour ça qu'il nous souligne tellement le fait que faisons partie du corps de Christ à la fin du chapitre 1. Il dit, faisons partie du corps. Celui qui est sauvé, réellement sauvé, par le sang de Christ, eh bien, quand il est sauvé, il est pas, il peut pas être libre de faire ce qu'il veut. Il est lié à Christ. Il est uni à Christ. D'où l'image de la table du Seigneur, c'est cette communion, cette table où nous partageons avec Christ. Quand c'est le baptême, c'est ensevelissement dans la mort avec Christ et ressuscité d'une vie nouvelle avec Christ. Tout, à partir du moment, et vous vous souvenez le début du chapitre 1 de Éphésiens, tout est en Christ, en Christ, en Christ. Et hors de Christ, il n'y a pas de vie éternelle, c'est en Christ. C'est pas que quand je reçois, demande à Dieu le pardon de mes péchés, je dis écoute, pardonne-moi, Christ est mort sur la croix demain, et puis il me donne une petite carte, et j'en mets ça dans la poche, au cas où un jour j'en aurais besoin, et puis après je continue à vivre ma vie, celui-là il n'a rien compris. Cette vie nouvelle que nous avons, elle est en Christ, elle est liée à Christ, et si j'arrive à vivre sans Christ, c'est que certainement que je n'ai pas la vie éternelle, hein. Parce que c'est lié à Christ. Et je sais, malheureusement, il y a des gens qui ont prié la belle prière, mais ils ont pris la prière un peu comme dans Alibaba, hein, « Sésame, ouvre-toi hein, ». Comme si c'était une formule magique, et puis tout se passe. Ben, ça ne se passe pas comme ça. Ce n'est pas une formule magique. Quand je viens à Dieu, je me rends compte que je n'ai pas de relation avec lui. C'est ça qu'on avait dit, hein, mort dans nos péchés, ça veut dire qu'on n'a plus de relation. Et quand je viens à lui, je cherche une relation avec lui. Eh bien, c'est pour être avec lui, c'est pour lier à lui, pour être en communion avec lui. C'est ce qui est tout à fait normal. Et c'est pour après ça, il dit, ben, je ne suis jamais tout seul. À tout moment, je peux prier. À tout moment, j'ai accès à lui parce que je suis en Jésus-Christ. Rappelez quand dans Jean chapitre 11. Lazare, hein, le frère de Marthe et Marie, il est mort. Et il était depuis 4 jours dans la tombe. Et l'état dans lequel il se trouvait, et selon la loi mosaïque, si quelqu'un touchait un cadavre, ils étaient impurs pendant 7 jours. Bon, je ne vais pas rentrer dedans, mais rapidement, entre parenthèses, impur dans le sens de... C'était une manière, à l'époque, de faire respecter les mesures d'hygiène. Et aussi, c'était aussi pour transmettre cette réalité, cette notion d'impureté devant la souillure. Hein, mais Lazare est impur. Quiconque le touche devient impur. Mais quand Jésus a crié « Lazare, sort !» et Lazare est sorti, il était vivant, et bien quand il est sorti vivant, et bien on pouvait le toucher. Et ça ne rendait pas impur. Et même dans le chapitre 12, Jean chapitre 12, on le voit assis à table avec Jésus. Pourquoi ? Ben ça y est, il a reçu la vie. Quand Jésus donne la vie, et bien maintenant, c'est plus la même chose. Et il est purifié. Et il peut être en communion avec Dieu. Et il nous dit que, et quand Jésus était à table là avec Lazare, dans Jean chapitre 12, eh bien vous pouvez imaginer que tous les gens qui arrivaient, l'attention de tout le monde était sur, on regarde Lazare pour voir s'il était bien vivant. Il dit, c'est pas possible, hein, faut que je le voie de mes yeux. Hein, combien de gens ont dû le faire, ils ont vu, ils voient, il est vraiment vivant, il mange, il parle, c'est celui qu'on a connu. Et puis il voit Jésus, et vous savez ce que, forcément, les pensées de tout le monde se sont tournées vers Jésus et dire, mais il est extraordinaire quand même, à la louange de Jésus-Christ. Ça s'est fait de manière tout naturelle. L'œuvre, ce qui s'était passé chez Lazare, eh bien tout naturel, a montré Jésus du doigt. Pour dire d'où cela venait. Eh bien, il nous dit aussi, regardez au verset... je relis versets 5 jusqu'à 7, il nous dit « Nous étions morts par nos péchés et nos offenses, il nous a rendus à la vie avec Christ. » Verset 6, « Il nous a ressuscités ensemble, il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. » C'est-à-dire le fait, il nous donne ce salut, après nous sommes en lui, et il nous donne cette position avec lui dans la gloire. Physiquement, nous ne sommes pas là encore, mais la place est là. Et un jour, nous serons dans sa présence. Et le fait de notre présence là, eh bien, sera une démonstration de la puissance de Jésus-Christ et de l'œuvre de Christ. Ce sera sa louange. Autant la présence de Lazare à la table avec Jésus était une louange à Jésus, eh bien, autant notre présence dans les lieux célestes, ça sera une louange à l'œuvre de Christ sur la croix et tout ce qu'il a fait. Et donc, il nous dit, et remarquez en plus qu'il nous dit, c'est afin de montrer dans les siècles à venir. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui est pour de bon. C'est quelque chose qui dure longtemps. Et si c'est pour que lui soit loué pendant longtemps, ça veut dire que je serai présent longtemps. Et ça veut dire que lorsque nous sommes sauvés, nous sommes en Jésus-Christ, c'est pour de bon. Hein? Et nous pouvons croire à notre salut, ça ne dépend pas de nous. Hein? Il nous dit que c'est par la grâce que vous êtes sauvés, c'est quelque chose qu'il a fait, tout vient de lui, rien vient de nous, c'est lui qui nous donne cela. Dites, waouh, si tout ça c'est vrai, ça en fait beaucoup. Ben oui, je comprends. Et ça, c'est pas la moitié de ce qu'il a fait. Et donc, je vois la grâce de Dieu, la miséricorde de Dieu. Voilà ce que la grâce et la miséricorde de Dieu. Ça nous démontre, à la croix, il nous démontre combien il nous aime. Et à un moment de notre salut, eh bien, nous avons cette confirmation de son amour pour nous. Et parce que nous voyons la grandeur de sa grâce. Et sa grâce, il l'exerce pas seulement au moment de notre salut, mais tout le long de notre vie. Parce que, vous pouvez demander à mon épouse, je ne suis pas parfait. Il y a 2 ou 3 fois que j'ai fait... Non, plus que ça. Mais, donc j'ai besoin de la grâce de Dieu tout le long. Elle continue à agir, cette grâce de Dieu. Vous savez, voyons la grâce et la miséricorde de Dieu, voyons aussi l'engagement éternel de Dieu, nous avons déjà vu quelque chose, mais il nous dit que, au verset 5, il nous dit, nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendus à la vie en Christ. Vous savez, Jésus a, plusieurs fois, il a montré sa capacité de ressusciter. Il y avait le fils unique de la veuve, ils partaient pour l'enterrer, et Jésus, il s'arrête, et puis il dit 2 mots, et l'enfant, le jeune homme, se lève et le rend à la mère. Il y a aussi la petite fille de Jaïrus, Jésus ressuscite, Talita Kumi, et elle se lève. Et puis vous avez bien sûr le cas qu'on vient de mentionner, Lazare, où il dit « Lazare, sors !» Et heureusement qu'il a dit Lazare, parce que quelqu'un a dit, s'il n'avait pas dit Lazare, peut-être tous les gens qui étaient enterrés seraient sortis. Donc il a dit Lazare sort. Et Lazare est sorti. Et si vous vous souvenez des détails, il est sorti, mais la coutume des Juifs, c'était d'envelopper le tissu qui enveloppait tout le corps, et puis après, il y avait un autre tissu qui était sur la tête. C'était le cas de Jésus, et c'était le cas... Et en passant, hein, le suaire de Turin, là, il ne correspond pas du tout. Hein. Donc, mais... vous savez, il était tout enveloppé. Et Jésus dit, sors, il est sorti. Mais il n'était pas en mesure de sortir. Vous savez, déjà, les ados, pour les sortir du lit, c'est pas facile. Mais là, il est sorti tout lié. Et je vous laisse imaginer comment il est sorti. Ils sont debout. Et une fois sorti, Jésus dit, déliez-le. Et vous savez, quand je viens à Christ, l'instant 1 de ma vie nouvelle, eh bien, il y a beaucoup de choses qui ressemblent à la vie passée. Hein. Il y a beaucoup de choses. C'est pas je suis sauvé, mais après, il y a tout un travail à faire. Et il y a une question, il y a déliez-le. Il faut commencer à défaire tout ce qui correspond à la vie passée et le remplacer par Lazare, j'imagine, quand il était à table, dans Jean chapitre 12, il n'était pas en tenue de tombe, hein. Il était en tenue d'homme vivant. Et nous, en tant que chrétiens aussi, on ne doit plus ressembler à ce qu'on était avant. C'est complètement nouveau. Donc, et dans tous ces cas où Jésus a ressuscité quelqu'un, il a dit un mot et la personne est ressuscitée. Et vous savez, quand je suis mort dans mes péchés, mes offenses aussi, il ne suffit que d'entendre la parole de Dieu. Et Dieu qui dit, écoute, viens à moi. Et on est capable de l'entendre, de répondre. Je vous laisse avec la question, hein, si vous voulez vous embêter ce soir, cet après-midi. Comment, s'il n'était pas encore ressuscité, comment est-ce qu'il a entendu? Est-ce qu'il a entendu avant d'être ressuscité ou il était ressuscité avant d'entendre? Mais s'il était ressuscité avant d'entendre, il n'y avait plus besoin d'entendre. Je vous laisse avec le problème. Et un mort n'entend pas. Je vous laisse avec le problème, vous pouvez le résoudre tout seul. Tout ce que moi je constate, c'est que les morts peuvent entendre quand Dieu parle. Et les morts spirituellement peuvent entendre quand Dieu parle aussi. Hein, donc ne paniquez pas. Vous savez, vous pouvez entendre la voix de Dieu qui appelle, qui vous attire à lui et il peut vous encourager. Vous savez que dans Éphésiens chapitre 3, je continue en tous les cas. Il dit, là j'ai pas la référence, verset 21, chapitre 3, Éphésiens 4, verset 21. Il dit, si du moins vous l'avez entendu, si conformément à la vérité qui est en Christ, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller. Donc dépouiller, ça veut dire se défaire. Et ensuite, au verset 24, il dit, « Et à revêtir l'homme nouveau. » Donc, dans ce qui doit arriver, c'est ce qui est arrivé à Lazare, et c'est une image seulement, mais pour nous, c'est se défaire de l'habit ancien, se dépouiller de l'habit ancien, ce mode de vie, comme il nous parlait, que nous marchions autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, et de nous revêtir du vêtement nouveau, de l'habit nouveau, de l'homme nouveau, celui qui était créé en Jésus-Christ. Hein, parce qu'il nous dit dans 2 Corinthiens 5, 17, il dit, nous sommes une nouvelle création, les choses anciennes sont passées, et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, il y a un changement, il y a une transformation. Et donc, ceux qui sont autour de nous doivent le voir. J'étais cette semaine, j'ai, J'étais cette semaine passée, là, j'ai enseigné dans un institut. Il y avait un jeune homme qui commence, là, c'est en première année. Eh bien, lui, il venait d'être délivré. Il avait fait cette démarche tout seul d'étudier la parole. Et il s'est défait de toutes sortes de sciences ésotériques et tout cela. Et il connaissait tout ce domaine. Il a dit, j'ai quitté tout cela pour suivre Jésus-Christ. Et puis après, mardi soir, j'étais à une étude biblique à Thionville. Et là, j'ai rencontré un autre qui dit, moi, et c'était la première fois qu'il était à l'église, et il disait, quelqu'un m'a parlé à travers de Facebook, de chat de Facebook, quelqu'un le témoignait du Seigneur, et il s'est rendu compte, et il a quitté tout ce mode de vie, il a dit, les bouquins que j'avais, toutes ces choses, il a dit, j'étais dans un mouvement où c'est la suprématie de l'ego. Moi, je deviens le Dieu de ce monde, de ma vie. Et il a dit, et j'ai claqué tout cela, et maintenant je veux suivre Jésus-Christ. Et il dit, j'ai retrouvé la joie, la libération. Et vous savez, mais c'est ça, il y a un changement. On a quitté quelque chose et pour s'attacher à autre chose. Et si, s'il n'y a pas de changement, s'il n'y a pas, je me dis, je commence à douter de s'il y a vraiment vie. Hein. Et donc... Et notre salut, il nous dit aussi, je reviens dans Éphésiens chapitre 2, il dit non, et donc il nous dit, c'est le salut, c'est par la grâce, et ce n'est point par les œuvres. Et vous remarquez qu'il n'a pas dit, ce n'est point par les bonnes œuvres. Il a dit, ce n'est point par les œuvres. Parce qu'il a dit, parce qu'en fait, c'est ni les bonnes œuvres, ni les mauvaises œuvres qui ont de l'effet. Mes mauvaises œuvres, tout ce que j'ai pu faire dans le passé, n'ont aucun effet, n'ont aucun poids, ils ne sont pas un obstacle. Je ne cherche pas à savoir, je n'ai pas besoin de connaître votre casier judiciaire. Il a dit, ce n'est pas ni par les mauvaises œuvres, ni par les bonnes œuvres. C'est tout par grâce. Et ça me rassure. J'étais pécheur, mais il m'offre, il me dit, c'est le don de Dieu. C'est cette vie nouvelle en Jésus-Christ. Et surtout, il dit, ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Il doit connaître l'être humain. Parce que nous, pour moins que ça, on se croit meilleur qu'un autre. Hein, dès qu'on surpasse en quelque chose, celui qui surpasse en taille à l'école, ben, tout d'un coup, c'est un grand. Celui qui surpasse en moyen, celui qui surpasse en malice, celui qui surpasse en tricherie, ben, chacun se fait savoir, hein, il essaie de faire valoir ce qu'il a. Il n'en faut pas grand-chose pour qu'il le fasse valoir. Mais il dit non, afin que personne ne se glorifie. C'est-à-dire, je me glorifie uniquement dans l'œuvre de Jésus-Christ et rien d'autre. C'est une faveur imméritée, cette grâce, et je l'accepte comme ça. Il nous dit, ce n'est pas une récompense, c'est un don gratuit. Le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Sauveur. Romains 3, 23. Donc, nos œuvres, passées ou présentes, n'ont absolument rien changé au salut que nous avons en Jésus-Christ. Tout a été accompli sur la croix. Le voile a été déchiré dans le temple. Le passage a été ouvert avant même que je sois né. C'est avant que je fasse quoi que ce soit, hein, mais afin que je fasse le moindre bruit dans ce monde, c'était déjà fait. Le voile était déchiré. Dieu a tout mis en place. Et ça, c'est la grâce de Dieu. Et alors j'arrive à ce verset 10 et je vais juste le mentionner rapidement, mais il dit, nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Paul écrit aux Éphésiens, nous sommes son ouvrage. Donc c'est pas moi qui interviens, c'est pas ce que j'ai pu faire. Il n'y a pas d'enfant de Dieu autodidac. Je me suis fait enfant de Dieu. Hein, c'est pas plus, le pécheur ne peut pas se rendre assez bon pour Dieu. pas plus que le singe ne peut sortir du marécage en tirant sur la moustache. Ça marche pas. Et vous savez, le salut, c'est pas juste une question de tirer les châtaignes du feu. Mais après quoi, hein, Dieu nous a pas seulement, il m'a sauvé, il dit, bah, je t'ai sauvé du feu, hein, déjà dis-moi merci. Et puis maintenant, bon, c'est bon, qu'est-ce que tu veux de plus, hein, j'ai déjà fait ça. Hein. Et non, c'est pas ça. Lui, il dit, quand je t'ai tiré de là, j'avais tout un programme pour toi. J'ai tout un projet pour toi, j'ai toute une vie pour toi. J'ai une éternité pour toi. Et même le mot ouvrage, là, c'est le mot grec poema, duquel nous avons tiré le mot poème. Et donc, un poème, c'est avant tout quelque chose qui a été créé, qui est une composition, ce sont des pensées arrangées et présentées. C'est un ouvrage unique. Hein, quand quelqu'un écrit un poème, c'est sa création. On dit vraiment création. Et il n'y a qu'un seul, il n'y a personne qui a fait un autre, pareil. Et il dit, vous êtes mon ouvrage. Vous êtes des pièces uniques que je fais. Nous sommes son œuvre d'art. Dans un sens, c'est comme si, vous savez, vous trouvez sur la plage, là, après une tempête, vous avez du bois de dérive, et vous récupérez un bout de bois comme ça, et puis vous le travaillez, vous le poncez, vous voyez, et puis tout d'un coup, vous placez ça dans une vitrine, et ça prend tout d'un coup, ça devient un objet d'art. Et certains peuvent coûter assez cher. Alors qu'à l'origine, c'était que du bois à la dérive. Et c'était un peu ce que nous étions, du bois à la dérive, hein, avant de connaître Jésus-Christ. Mais Dieu nous prend, il nous sort de l'abîme de la mer, dans un sens, et il nous donne une position nouvelle, une valeur nouvelle, un usage nouveau. Et après on dit, mais c'est qui a fait ça? Ben, c'est Dieu qui a fait ça. Hein, nous sommes son ouvrage. C'est pas seulement que ça devient, hein, le bois de dérive, là, quand on le prend, ça reste mort quand même, quand moi je le prends. Mais Dieu nous prend et nous donne la vie, on commence à vivre, ça commence à s'agiter, ça commence à bouger, ça commence à parler, commence à s'exprimer. Et surtout à parler de celui qui l'a sauvé. Et c'est ce que nous sommes. Et donc cette nouvelle composition, cet ouvrage, eh bien, prend vie et commence à vivre, et vivre une vie nouvelle. Et cette vie nouvelle, cette transformation, eh bien, elle commence au moment du salut, et elle prend toute notre vie sur terre. Hein, c'est quelque chose qui ne s'arrête pas. En fait, je peux dire en tant que chrétien, je suis en voie de transformation. Hein, Dieu a commencé à un certain moment, je suis né de nouveau, ça c'est le moment zéro de ma vie spirituelle, mais après cela, eh bien, je suis en voie de transformation, et nous sommes tous à des stades différents de cette transformation, et ce qui s'appelle aussi, dans le terme théologique, la sanctification, hein, c'est la sanctification, ça veut dire de plus en plus saint, plus en plus ressemblant à l'œuvre de Dieu, et bien sûr, comme nous lisons dans Romains chapitre 8, verset 29, il nous dit, nous sommes prédestinés à être à l'image de Christ. Voilà le but final. Donc Dieu a un projet, il n'est pas là au hasard, il dit, tiens, je ne m'attendais pas à toi, tu sors d'où? Qu'est-ce que je vais faire de toi? Ben écoute, mets-toi là à côté, je vais voir si je trouve quelque chose. Non, Dieu, ce n'est pas comme ça. Et il dit, justement, je t'attendais, voilà, j'ai un plan pour toi. Et j'ai une place pour toi, et j'ai un usage pour toi, et puis c'est pour l'éternité. Et tout ce que tu seras, et tout ce que tu deviendras, ce sera à la louange de ma grâce et de ma miséricorde. Et je ne vais pas développer ça, parce qu'on va le reprendre la prochaine fois, mais dans cet ouvrage, hein, comment il y a eu un travail à faire sur cet ouvrage, sur cette pièce nouvelle, et... il y a des outils particuliers qu'il emploie. Je vais vous les citer seulement. Le premier outil, c'est la parole de Dieu. Il se sert de la parole de Dieu pour faire cette œuvre de transformation. Deuxièmement, il se sert de la prière. Et troisièmement, il se sert de la souffrance. la souffrance par laquelle nous traversons. Tout ça, c'est fait pour nous former. Alors, si je ne lis pas la parole de Dieu, l'œuvre ne se fait pas. Si je suis pas, je passe pas des moments de prière, pas seulement où, des prières où je demande des choses de Dieu, mais du temps avec Dieu, de communion avec Dieu. Hein, c'était un peu, il y a quelques semaines, on avait posé la question et dit, est-ce que tu pries quand tu pries? Hein, c'est la question à se poser. C'est cette prière-là dont on parle. Il dit, et puis ensuite il a dit, et la souffrance, parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas apprendre que par la souffrance. Vous ne pouvez pas apprendre la patience sans passer par des difficultés. C'est impossible. Celui qui n'a jamais eu de difficulté, il ne sait rien de la patience. Par exemple. Et donc, c'est cette œuvre, un peu comme Lazare quand il a été délié, ben c'est cette œuvre qui doit se faire en nous pour délier pas mal de choses et pour les remplacer par autre chose et nous transformer. Dépouiller du vieil homme et revertir l'homme nouveau. J'ai couvert beaucoup de choses là en quelques versets, mais ça c'est l'œuvre extraordinaire de Dieu. Et c'est l'œuvre de sa grâce. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Parce que sinon il n'aurait pas pu nous faire grâce. Il n'aurait pas pu nous offrir le pardon. C'est une fois sur la croix qu'il a pu dire « Père, pardonne-leur ». Il ne l'a pas dit avant. Et c'est parce que quand il était sur la croix que le voile dans le temple s'est déchiré du haut vers le bas. Donc ce n'était pas un être humain qui a déchiré, ça a commencé du haut vers le bas, qui était un symbole de l'ouverture de ce passage dans le lieu très saint, accès à la présence de Dieu. C'était ouvert, ça a été fait là, ça a été tout fait pour moi, d'abord parce que je ne pouvais rien, et donc il a fait tout ce que je ne pouvais pas faire. Et qu'est-ce que j'ai pu faire? Ben rien du tout, sinon d'accepter. Dire, Dieu, écoute, si tu veux bien, puisque tu veux, eh bien moi aussi j'accepte. Et cette vie nouvelle, elle est liée à Christ. Et nous sommes toujours en Christ, avec Christ. Et on ne peut plus être séparés. Il nous parle de l'Église, qui est composée des enfants de Dieu. Il parle de l'Église comme le corps de Christ. Hein. Et lui, la tête. Séparer la tête du corps, vous n'avez plus grand-chose. On est liés ensemble. Et donc, il nous parle autrement de l'épouse. Il parle de l'Église comme l'épouse de Christ. Ben, une épouse, c'est fait pour être liée à son mari. C'est comme ça que Dieu a conçu le mariage. Et c'est ça, c'est lié pour toujours, jusqu'à la mort. Mais comme il n'y aura pas de mort, ben, donc, ça sera pour l'éternité. Ça, c'est le plan de Dieu. C'est quelque chose de beau. Maintenant, la question, c'est... Ça, c'est le plan. Maintenant, c'est une question, je l'accepte ou je n'accepte pas. Hein, c'est ça, là, le choix. Et le choix est le mien. Et puis, après, j'assume les conséquences de mon choix ou je me réjouis dans les conséquences de mon choix. Hein, ça, c'est pour chacun. Et puis, pour celui qui est déjà enfant de Dieu, c'est pour nous rappeler quel est l'engagement que nous avons pris et là où nous allons. Ce n'est pas une question, ce n'est pas juste un visa pour le ciel. C'est une autre vie que j'adopte. Et je vis pour Dieu. Nous allons prendre quelques moments après avoir tout cela, que chacun des moments de silence, afin que chacun puisse vraiment voir ce qu'on a dit. J'espère qu'il y a pour chacun, il y a quelques mots, une phrase qui correspond à son besoin, sa personne, et que vous avez quelque chose à dire par rapport à cela. Soit merci Seigneur, soit Seigneur je veux ça, soit quelque chose, il y a quelque chose que vous pouvez dire à Dieu. Et donc un moment de silence et puis ensuite je vais clore dans la prière.